There are 274 million French speakers in the world. For France's Emmanuel Macron, speaking French opens doors in an increasingly globalized world. But what many don't realize is that there are more French speakers in Africa than Europe. In 2014, there were 150 million francophones in Africa, but less than 100 million in Europe. There's another 20 million from the Americas and the Caribbean, followed by 2.5 million in the Middle East and Asia. Finally, around 1 million are living in the South Pacific. By 2050, Africa could account for 85% of the francophone world. But according to the International Organization for la Francophonie, those numbers could change depending on how the organization's 54 member states choose to reinforce the language's teaching. With a potential for 700 million speakers, French could become the most widely spoken language in the world. But for now, it ranks fifth worldwide, behind Arabic, English, Spanish, and Mandarin, with 848 million speakers.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Pocori Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Pocori Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. In partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie. Mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Pot-Pourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans sur CUT 89,5 FM. Pot-Pourri Show sur votre fréquence tout au long de l'année. La radio comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette with butter or marmalade?
Retrouvez ma radio sur le site internet www.radiodenoël.fr. On peut aussi m'envoyer une lettre, écouter mes chansons ou découvrir des marchés de Noël. www.radiodenoël.fr.
La saison des fêtes avec Popourri Show et CUT 89,5 FM. Vous êtes près de 100 000 abonnés à contribuer au succès de notre radio. Alors, merci. Que vous soyez à Toronto, au Canada ou ailleurs, vous, les artisans de justice et de paix, Popourri Show et CUT FM vous souhaitent de joyeuses fêtes. Ciné Franco, 25 ans, et ça se fête. Et tout au long de l'année, en ligne ou en salle, restez branchés sur CUT 89,5 FM pour découvrir les rendez-vous et les films de Ciné Franco, reflétant la diversité des cultures francophones. Cinéfranco.com, popourrichot.com, 25 ans, ça se fête. Dimanche 17 décembre 2023. En 2024, nous nous engageons résolument pour mieux vous servir. Joyeuses fêtes! Bonjour et bienvenue à Popourri Show, votre magazine de la francophonie sur la bande 89,5 FM. Et en ligne, pour nous suivre où que vous soyez dans le monde, www.cut.fm. Ou 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur Rogers Cable 946. Une fois de plus, je vous remercie très chaleureusement de votre grande générosité lors de la collecte de fonds du 13 au 19 novembre. Et ça se poursuit grâce à la générosité de nos membres et auditeurs bénévoles, partenaires. Nous avons amassé à ce jour plus de $90,000. Je vous rappelle que l'objectif de la radio est de $100,000. Vous aimez notre émission, vous aimez Popourri Show qui vous dépayse, eh oui, depuis voilà 36 ans. Alors je vous invite à faire un don en ligne, si vous ne l'avez pas fait encore, et en toute sécurité sur www.cut.fm et cliquez sur le bouton Donate ou visitez tout simplement notre site web popourrichot.com. Et n'oubliez pas d'indiquer votre don à Popourri Show. Et je remercie DJ Devera, l'ingénieur du son et toute l'équipe de Hard House Studio pour la mise en onde de cette émission. Et bravo, merci à tous ceux et celles qui nous ont aidés cette semaine à trouver une résolution pour le petit problème technique de dimanche dernier. Animation et production, Eric Kader, qui vous accompagne depuis 36 ans pour télécharger nos émissions où que vous soyez dans le monde, à New York, en Haïti, à l'île Maurice ou ailleurs, popourrichot.com. Au sommaire de cette émission un peu spéciale aujourd'hui, les francophones d'Amérique, une communauté de destin. Au-delà des distances et de nos différences, par-delà les statistiques et les nombres, nous vibrons d'une même appartenance. Mais quelle est donc cette racine francophone qui résiste avec vigueur sur ce continent? Et oui, pour mieux comprendre les francophones d'Amérique, nous avons le bonheur de recevoir professeur Thomas C. Speer, auteur d'un nouveau livre, Les Mascarades du Wisconsin. C'est son premier roman aux éditions AMAC. Il est professeur de langue française et de littérature francophone à la City University of New York. Il a interviewé de nombreux grands écrivains francophones de ce monde, des Antilles en passant par l'Afrique et l'île Maurice, l'île de la Réunion. Il dit, je cite, « Paris ou l'Europe francophone ne devrait pas être le centre de la francophonie ». Fin de citation. Lauréat du prix du rayonnement de la langue et de la littérature française de l'Académie française, il est membre de l'Ordre des francophones d'Amérique. Il est aussi auteur de nombreux articles critiques, notamment sur l'autobiographie et l'autofiction. Il est également traducteur, directeur de plusieurs ouvrages collectifs, Les Mascarades du Wisconsin, aux éditions Hamac, un livre à lire absolument, à retrouver sur notre site web, popourishow.com. Nous recevrons Professeur Spear vers 11h30 à ne pas rater. La saison des fêtes est à nos portes. Pour une 36e année, Popourri Show apportera un peu de chaleur, un peu de bonheur dans la vie de certaines familles francophones et réfugiées vivant à Toronto. Êtes-vous seul à la veille de Noël? Vous ne savez pas quoi faire? Le 24 décembre, French Friday, un groupe de réseautage pour francophones francophiles à Toronto, organisera son traditionnel réveillon des orphelins de Noël. Une super soirée, tous ensemble, on y dégustera de délicieuses spécialités au restaurant Korean Village, 628 rue Blue West. Il faut absolument vous inscrire sur Eventbrite. Vous retrouverez le lien et l'adresse sur notre site popourishow.com. On en parle avant la fin de l'émission avec Zéfred, cinématographe et membre du French Friday. Après le succès de sa 26e édition au mois de novembre, Ciné Franco en décembre, gratitude et perspective jeunesse. Dans le cadre de sa place au cinéma, la bibliothèque de référence de Toronto programme le film de Philippe Noiret, Welcome, présenté par Marcel Lynn, fondatrice de Ciné Franco et amie de la radio depuis toujours. Sorti en 2009, ce film reste toujours d'actualité. Le 18 décembre, donc demain lundi à 18h, à la bibliothèque de référence de Toronto, Marcel Lynn sera des nôtres pour quelques minutes avant la fin de l'émission. À ne pas rater. Et oui, il s'est passé beaucoup d'événements sur la planète francophone, entre autres loi sur la radiodiffusion. Au Canada, oui, la francophonie minoritaire inquiète. L'immigration fait débat en France, en Angleterre ou aux États-Unis. Cette semaine, c'était le grand débat. En France surtout, nous avons aussi commencé à recevoir les chansons et les albums de l'année 2023. Quels sont vos événements marquants ou vos films ou chansons préférées? Écrivez-moi, j'ai des petits cadeaux pour vous. popourri@cut.fr. Parmi les sujets qui ont retenu notre attention cette semaine, Radio-Canada et son pendant anglophone CBC vont supprimer des centaines de postes de travail. Cela a fait débat et même on en parle chez nos amis confrères de Radio France Internationale. Plusieurs associations culturelles qui représentent les communautés francophones montent au créneau. Sébastien Pierrose, journaliste au journal Le Droit, a écrit cette semaine un excellent article intitulé « L'égalité linguistique pour les coupes à Radio-Canada ». Et tout en respectant les préoccupations de ces braves francophones d'un bout à l'autre du Canada, une des questions que tout le monde évite en public, n'est-il pas temps de revoir le mandat de Radio-Canada et la représentation des régions dans toute sa programmation? L'autre sujet qui a eu l'effet d'une bombe, c'est l'audition calamiteuse de trois présidentes d'université au Congrès des représentants aux États-Unis. Résultat des missions de la présidente de l'université de Pennsylvanie, Liz McGill. La présidente de Harvard est maintenue à son poste. Le campus reste divisé. Après ses propos jugés ambigus sur la lutte contre l'antisémitisme sur le campus, secoué par la guerre à Gaza, la droite accuse la gauche wokiste de laxisme. Voir les présidentes de certaines de nos universités les plus prestigieuses, littéralement incapables de dénoncer l'appel au génocide des Juifs comme antisémites, ce manque de clarté morale est tout simplement inacceptable. Nous entendrons l'analyse de Catherine Dutu de France Culture. Et juste après, Amour. Eh oui, c'est la chanson, l'album RTL de l'année 2023, interprété par Calogero. Popourri Show vous souhaite de très joyeuses fêtes, que la paix règne sur la planète et dans vos foyers.
La revue de presse internationale, bonjour Catherine Dutu.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous.
Un fil rouge ce matin, des victoires à la Pyrrhus, avec tout d'abord aux États-Unis la présidente de l'université d'Harvard qui a été maintenue dans ses fonctions.
C'était hier, après ses propos jugés ambigus la semaine dernière sur la lutte contre l'antisémitisme sur le campus et malgré les pressions politiques. Le conseil d'administration d'Harvard a fait bloc hier derrière sa présidente, Claudine Gay, mais son campus reste divisé, titre le New York Times. Et c'est le symbole des fractures aux États-Unis sur la guerre entre Israël et le Hamas, notamment à gauche. L'occasion aussi pour le Parti républicain de se remettre en selle sur son cheval de bataille, l'anti-wokisme. Le feu couvait depuis des semaines sur le prestigieux campus de la côte Est près de Boston. Des étudiants d'Harvard, rappelle le New York Times, pro-palestiniens, avaient écrit une lettre ouverte affirmant qu'Israël était entièrement responsable de la violence du 7 octobre. Lors de manifestations en soutien avec Gaza, des chants visant à mondialiser l'intifada avaient été entendus sur le campus, rappelle le Washington Examiner, tout comme le slogan « From the river to the sea, Palestine will be free », ce qui veut dire « De la rivière à la mer, la Palestine sera libre », slogan né des revendications de l'OLP pour créer un État palestinien du Jourdain à la Méditerranée, slogan récupéré par le Hamas qui veut éradiquer l'État d'Israël. Quatre étudiants d'Harvard font l'objet de mesures disciplinaires pour leur implication dans ces manifestations pro-palestiniennes du mois dernier, indique le journal étudiant Harvard Crimson. Mais les tensions ont atteint leur paroxysme la semaine dernière lorsque la présidente de l'université, Claudine Gay, a été interrogée 5 heures durant au Capitole par des élus de la Chambre des représentants. À ses côtés, les présidentes de l'université de Pennsylvanie et du MIT, et face à elle notamment, la républicaine Elise Stefanik.
Dr. Gay, at Harvard, does calling for the genocide of Jews violate Harvard's rules of bullying and harassment, yes or no?
It can be, depending on the context.
Appeler au génocide des Juifs viole-t-il le règlement sur le harcèlement à Harvard? Oui ou non, a demandé la républicaine Elise Stefanik. C'est possible en fonction du contexte. Si c'est dirigé contre une personne, a répondu Claudine Gay, la présidente d'Harvard, ajoutant que la rhétorique antisémite, lorsqu'elle se transforme en conduite qui équivaut à de l'intimidation, du harcèlement, est une conduite passible de poursuite et nous agissons contre cela. Des propos qui n'ont pas convaincu la républicaine Elise Stefanik. Claudine Gay a depuis regretté de ne pas avoir eu de condamnation plus ferme, mais sa réponse a été étrillée par la droite. Le Breitbart News, site conservateur, pro-trumpiste, estime que si la présidente d'Harvard, de 53 ans, née dans une famille d'immigrés haïtiens, avait été un homme blanc, elle aurait été démise de ses fonctions. Pendant des années, les conservateurs ont eu du mal à convaincre les électeurs américains que le virage à gauche, pris par l'enseignement supérieur, était dangereux, mais voilà que l'audition de ces présidentes d'université leur a donné des cartouches supplémentaires, estime le New York Times, pour attaquer ces institutions et la gauche. Ces critiques ont résonné d'autant plus que le porte-parole de Joe Biden s'y est joint, comme des personnalités du monde des affaires, telles que Sam Altman, le président d'OpenAI, également important donateur du Parti démocrate. Longtemps, j'ai estimé que l'antisémitisme, en particulier au sein de la gauche américaine, n'était pas aussi grave que certains l'affirmaient. J'avais tort, a-t-il écrit sur X, anciennement Twitter, dans un message cité par le New York Times.
Et les républicains dénoncent une liberté d'expression à deux vitesses.
Si la présidente d'Harvard a été maintenue à son poste hier, ce n'est pas la fin de la bataille pour Jim Banks, républicain élu à la Chambre des représentants.
Giant double standard here. These universities have become cesspools for left-wing political activism.
Il y a deux poids, deux mesures sur la liberté d'expression, dit-il. Ces universités sont devenues des cloaques pour l'activisme de gauche. Elles n'ont plus pour mission d'éduquer nos enfants, de les former pour le marché du travail. Et c'est pourquoi nous devons leur couper les vivres, estime le républicain Jim Banks sur Fox News. Il dit avoir lancé une enquête au sein du Congrès pour prouver que ces universités ne créent pas un environnement sûr pour les étudiants juifs. Ensuite, nous réduirons leurs subventions fédérales. C'est la prochaine grande étape. Le New York Times rappelle de son côté qu'une vingtaine d'États républicains ont déjà adopté des projets de loi restreignant les programmes de diversité, d'équité et d'inclusion. Et ce qui est en jeu désormais pour Robert Reich, ancien secrétaire américain au travail, c'est la liberté académique, l'autonomie des universités américaines. Celui qui est aussi professeur de politique publique à l'Université de Californie à Berkeley clé, écrit dans un édito pour le Guardian que les républicains et les donateurs menacent de couper les fonds pour l'enseignement supérieur. Ils s'en inquiètent. Et en tant que juif, écrit encore Robert Reich, je ne peux m'empêcher de craindre que les actions de ces donateurs n'alimentent l'antisémitisme même auxquels ils prétendent s'opposer, fondée sur l'idée, aussi fausse que dangereuse, selon laquelle de riches banquiers juifs contrôlent le monde. Le quotidien Haaretz appelle, lui, à se méfier de celles et ceux qui prétendent lutter contre l'antisémitisme. La républicaine Élie Stéphanie, qui était à la manœuvre la semaine dernière au Capitole, qui se qualifie d'ailleurs de guerrière ultra-maga, comprenez, très proche de Donald Trump, avait été critiquée pour ses spots de campagne qui surfaient sur le thème du grand remplacement, selon lequel les élites occidentales, parfois manipulés par les juifs, chercheraient à remplacer et priver de leurs droits les Américains blancs, note le New York Times. Cette même Élise Stéphanie ne s'attaque pas à l'antisémitisme au sein de son propre parti, déplore le journal israélien Haaretz.
France 24 en direct, partout dans le monde, en trois langues, les émissions à la demande, les alertes en temps réel. Vous pensiez avoir tout vu? Avec la nouvelle application France 24, allez encore plus loin. Recevez les tweets exclusifs de nos journalistes, l'info avant tout le monde. Personnalisez votre page, vos contenus préférés, en un clin d'œil. Découvrez un nouveau design, tout simplement beau. Avec cette nouvelle application, prolongez l'expérience France 24.
Eh bien, Amandine, le grand gagnant est avec nous au studio. Le suspense est terminé puisque l'album RTL de l'année 2023 revient à... Bonjour Calogero.
Bonjour.
Vous êtes sacré pour votre album.
Et bravo.
A-M-O-U-R. Disque sorti en septembre dernier, vous étiez venu le présenter ici même au micro d'Amandine. Un immense bravo.
Mais merci beaucoup.
On est heureux de vous retrouver une fois de plus. Il y a une fidélité entre RTL et votre carrière. Je rappelle que ce prix est décerné par les auditeurs de RTL. Bref, c'est votre public et ceux qui vous aiment, qui vous ont désigné. Vous êtes heureux ?
Je suis très heureux, très heureux. C'est très, vraiment une très belle nouvelle. Parce que c'est toujours agréable quand les chansons touchent les gens. Oui. Et puis en plus, RTL, c'est vrai que j'ai une histoire. Mmh. Voilà, j'ai connu ces locaux orange au tout début.
Vous allez nous chanter juste une chanson extraite de l'album RTL de l'année 2023.
Aux cibles objectifs, aux débriefs, aux séminaires. Moi je voulais juste chanter mon air. Les campagnes publicitaires, les barrages secrétaires. Mais c'est quoi ce vocabulaire? Moi je voulais pas faire militaire. Je voulais juste faire une chanson pour les filles et les garçons. Mettre des mots sur des sons, faire danser dans les maisons. Je voulais juste faire une chanson pour les filles et les garçons. Mettre des mots sur des sons, faire danser dans les maisons. Formaté cas d'école, prospect verrouillé un col, opération commerciale, exposition à l'allée centrale. Les études marketing, les opérations phoning, analyse et prospection. Je voulais pas être un espion. Je voulais juste faire une chanson pour les filles et les garçons. Mettre des mots sur des sons, faire danser dans les maisons. Je voulais juste faire une chanson pour les filles et les garçons. Mettre des mots sur des sons, faire danser dans les maisons.
Amis auditeurs, nous sommes heureux de vous annoncer que l'application Radio France accueille désormais les podcasts de tous les médias de service public.
Tous les podcasts de France Télévisions, et notamment La Grande Librairie, C'est dans l'air, La Maison des Maternelles et bien d'autres encore.
Tous les podcasts d'Arte Radio, pionnière du podcast. Bookmakers, Vivons heureux avant la fin du monde, et bien sûr, Un podcast à soi, et beaucoup, beaucoup d'autres.
7 milliards de voisins et de voisines. Priorité santé, si loin, si proche, bas les pattes, comme disent les femmes sur les 5 continents depuis MeToo. Voilà quelques-uns des exemples à travers l'extraordinaire richesse des podcasts de RFI.
Avec Lina, une sélection amoureusement préparée chaque mois, de feuilletons radiophoniques théâtrales de Pierre Billard, faits divers, de magnifiques lectures, Bonjour Tristesse par Jacqueline Pagnol, ou encore le feuilleton d'anticipation de Jean-Yann en 77, L'Apocalypse est pour demain.
On vous met donc à disposition des dizaines de milliers de nouveaux programmes qui viennent s'ajouter aux 1,5 million de podcasts des antennes de Radio France.
Tous les podcasts de l'audiovisuel public.
Disponibles gratuitement.
Dès maintenant.
Laissez-vous guider.
Sur l'application Radio France.
CIUT 89.5 FM. The sound of your city. Stream us anytime at www.ciut.fm.
Eh oui, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que Sophie France Solidarité des Femmes et Familles Interconnectées Francophones du Niagara, un organisme communautaire à but non lucratif, planifie, développe, organise et réalise des projets qui répondent aux besoins réels de la communauté immigrante francophone du Niagara. Sophie France est aussi un festival annuel haut en couleur avec Festive Ben, un salon du livre, des ateliers, des projets ambitieux et novateurs. Sophie France, 15 ans déjà, ça se fête! De la culture, de l'art et du patrimoine pour, par et avec les immigrants et les jeunes francophones du Niagara et de Welland. Découvrez les projets de Sophie Franc en cliquant sur sophiefranc.org ou visitez notre site web popourichaud.com. Où que vous soyez, si vous songez un jour vous installer dans la région du Niagara, Sophie Franc vous accompagnera dans votre processus d'intégration en vous offrant des services ciblés dans le domaine social, économique, éducatif et culturel. Pour une intégration réussie, une seule adresse, sophiefranc.org. Sophie Franc, un organisme qui a déjà fait ses preuves. Ensemble, faisons le changement. Pau Pourri Chaud, 35 ans déjà, fier partenaire de Sophie Franc. La saison des fêtes avec Pau Pourri Chaud et CUT 89,5 FM. Vous êtes près de 100 000 abonnés à contribuer au succès de notre radio. Alors, merci. Que vous soyez à Toronto, au Canada ou ailleurs, vous, les artisans de justice et de paix, Pau Pourri Chaud et CUT FM vous souhaitent de joyeuses fêtes.
Et au cours de ce sommet, on a souvent parlé de la lutte à engager, notamment sur le plan commercial, face à l'anglais, face à l'américain. Alors nous avons demandé à notre correspondant aux États-Unis, Jacques Abouchard, d'aller voir ceux qui continuent, malgré tout, malgré la langue américaine, à parler français. Cela se passe avec ce reportage de Jacques Abouchard dans le Massachusetts.
Comme tous les soirs, l'abbé Morissette et ses amis Fléchette, Leclerc et Doucette se retrouvent au café Le Passe-Temps pour une partie de cartes. Tout ici rappelle le terroir français. La scène se déroule pourtant à Lowell, ville industrielle du Massachusetts.
Et moi, je suis un franco-américain de la quatrième génération. Mes arrière-grands-parents sont venus ici à Lowell et puis nous sommes toujours restés ici. Alors les Français, les Canadiens français, sont venus ici pour travailler dans les filatures. Les grands manufacturiers envoyaient des agents recruteurs au Québec leur disant que c'était très bien ici, qu'ils feraient de l'argent, qu'ils venaient travailler dans les filatures, tout ça. Alors, ils ont commencé à venir en grand nombre. Et puis, à la centaine, alors en un rien de temps, il y a eu un petit Canada ici. On parle de plus en plus français. Maintenant, les petits-enfants parlent français maintenant. Ils commencent à parler français.
«
Quand nos aïons et rataillons venaient seulement devenus au monde, les gens d'avant qu'on précalons, la venait du point pour tout le monde.
Ils sont sortis fous de le village, et là il a tout le tracas. Pour s'ébarquer dans son voyage, au gré les points, ils sont à l'air au Wisconsin,
Wisconsin, Bay, Wisconsin, comme un spoujon. Wisconsin, Wisconsin, Bay, comme dans les bois du grand lait, sont des azéralés.
D'aller monter sur Ombacha, voir sur les soldats de l'autre côté, à vous des souhaits au plein c'est chien.
Sur les jours, à vous les enfants, prends ma pulon et t'allez bouer. Arrivez, restez plus au stand, vous le gré des rues, sont d'aller au Wisconsin, Wisconsin, baby, Wisconsin, comme un spoujon. Wisconsin, Wisconsin, comme dans les bois du Nabon, sont des azéralés. Voyant pourtant, y a le vin qui fly, Jade et Jade est sur les pires.
Et n'y va près de chair et sur l'air, pas de zol, toi, ça presse au pire.
C'est stuff, toi, t'es pareil à nous. Tout est poirté sur le dos.
Mais nos soins non nés rouvis, mon gré les poignes, ils sont à l'air au Wisconsin.
Wisconsin, baby, Wisconsin, comme un spoujon.
Eh oui, c'est une chanson, très belle chanson, en wallon, en honneur des colons wallons partis vivre au Wisconsin. Et oui, c'était lors de l'émission Wallons-nous, diffusé le 21 octobre 2015. Les francophones d'Amérique, une communauté de destin, au-delà des distances et de nos différences, par-delà les statistiques et les nombres, nous vibrons d'une même appartenance. Mais quelle est donc cette racine francophone qui résiste avec vigueur sur ce continent? Nous avons le plaisir d'accueillir notre premier invité du dimanche, professeur Thomas C. Spear, qui nous offre un beau cadeau de fin d'année, un premier roman, Les Mascarades de Wisconsin, aux éditions Amac, paru en septembre 2023. Un récit d'une relation père-fils d'une famille d'origine canadienne-française, là, dans cette petite ville de Wisconsin, dans cette Amérique coincée, dans les mutations profondes des années 50-60, un roman fascinant. Vous retrouverez le lien sur notre site web popourichaud.com. Thomas C. Spear, professeur de langue française et de littérature francophone à la City University of New York, un globe-trotter qui a interviewé de nombreux poètes écrivains francophones. Nous l'avons reçu sur cette antenne à quelques reprises, un homme atypique. En 2018, il a reçu les insignes de l'Ontario des francophones d'Amérique et du prix du 3 juillet 1608. Mais qui est vraiment notre invité, Thomas C. Spear?
Passons maintenant aux Amériques. Donc, des Amériques, Monsieur Thomas C. Spear. Originaire du Wisconsin, Thomas C. Spear s'installe à New York en 1983 après avoir terminé sa maîtrise en lettres françaises à l'Université de Californie à Santa Barbara. Il obtient un doctorat de l'Université de New York en 1988 en soutenant une thèse portant sur l'autofiction de Louis-Ferdinand Céline, alors que la même année, lors du Congrès international d'études francophones à Montréal, il découvre son grand intérêt pour la littérature francophone non européenne. Il est aujourd'hui professeur titulaire à l'Université de la ville de New York, autant dans son école doctorale à Manhattan que dans la faculté Lehman College dans le Bronx. Il y enseigne la langue française et les littératures francophones contemporaines, en particulier celles d'Haïti, de la Caraïbe, de l'océan Indien et du Québec. Il assure la promotion des lettres francophones depuis plus de 3 décennies par ses activités au sein de l'université où il enseigne, par son engagement dans des organismes professionnels, par ses recherches, par ses propres publications, de même que par son rôle de pionnier dans la diffusion de la langue française et de la littérature francophone à travers Internet. Conférencier de renom, il a publié plus d'une 50aine d'articles portant notamment sur l'autobiographie et l'autofiction, et pratique lui-même cette dernière forme de création littéraire. Il a été co-directeur d'un ouvrage critique sur l'œuvre de Céline et d'un autre sur celle de Marie-Célie Agnan, publié respectivement en 1995 et en 2013. Il a de plus dirigé en 2002 la production du recueil intitulé « La culture française vue d'ici et d'ailleurs », dans lequel 13 auteurs traitent de leur rapport à la langue et à la culture française, ainsi que celle en 2007 du titre « Une journée haïtienne », recueil de textes de 40 auteurs haïtiens et dont une suite sera publiée l'an prochain. Depuis 1995, il anime une liste de discussions électroniques de chercheurs appelée « Franco-Monde ». Il a créé, en 1996, un répertoire précurseur, le site web Ressources Internet francophones, procédé l'année suivante à la numérisation de la revue culturelle marocaine Souffle. En 1998, il a créé le site Île en Île, désormais référence mondiale, avec plus de 300 auteurs des îles francophones et de leur diaspora inscrits dans ses archives. Et cette initiative, dont il demeure l'éditeur principal, lui a valu en 2005 le trophée de la diversité culturelle reçu des mains du ministre de la Culture et de la Communication de France. Thomas C. Speer, qui de 2013 à 2017 a été chroniqueur à l'émission hebdomadaire « Dessine-moi un dimanche » à la radio de Radio-Canada, a reçu en 2016 à Port-au-Prince le trophée du gardien du livre pour son travail à promouvoir la littérature haïtienne. Et en 2018, le prix du rayonnement de la langue et de la littérature française décerné par l'Académie française. C'est notamment pour sa promotion de la langue française, pour son soutien au rayonnement des lettres francophones et pour la création du site Île en Île, outil de valorisation de la littérature des îles francophones et de leur diaspora, que le Conseil supérieur de la langue française lui décerne l'Ordre des francophones d'Amérique. Monsieur Spears, à votre tour.
Mesdames et messieurs, accueillons Thomas C. Speer, professeur de littérature à la City University of New York, fondateur de Île en Île, une base de données pour promouvoir et faire rayonner les œuvres littéraires des auteurs insulaires francophones, trop souvent oubliés par la France et le Québec. Il est auteur de nombreux articles sur des écrivains francophones de France, des îles de l'océan Indien, d'Haïti, des Caraïbes et du Québec. Il vient nous présenter aujourd'hui son premier roman, « Les mascarades du Wisconsin » aux éditions Amac. Bonjour, bonjour professeur et bienvenue sur notre antenne. Toutes nos félicitations pour ce premier roman. Je veux... Vous m'entendez professeur ?
Oui, bonjour Eric.
Oui, alors tant mieux, nous sommes très heureux que vous soyez des nôtres aujourd'hui. Je veux qu'on rentre dans le vif du sujet, mais d'abord, pour ce titre, pour ceux et celles qui apprennent le français, voyons ce que nous dit le petit Larousse, mascarade. Mascarade signifie réunion ou défilé de personnes déguisées et masquées. Déguisement étrange, accoutrement ridicule, comédie hypocrite, mise en scène trompeuse. La réunion fut une mascarade. Pourquoi, professeur, avez-vous choisi ce titre, Les mascarades du Wisconsin?
Merci de la question. Il y a plusieurs raisons. Je crois que je vais laisser aux lecteurs et aux lectrices d'en découvrir certaines, mais... Le cadre de l'histoire, c'est les années baby-boom, c'est-à-dire les années 50-60. Et normalement, l'image qu'on donne de l'Amérique à l'époque, c'est une Amérique prospère, rayonnante, et que, comme on dit, les baby-boom, c'est les familles grandissantes. Et ce que je voulais montrer avec cette image idyllique de Wisconsin, médecins de l'Amérique de cette époque, c'est des travers qui ne sont pas forcément cette image idyllique, c'est-à-dire derrière, il y a un père dominant dans cette famille, et dans la communauté, on voit toutes sortes de représentations de la misogynie, le racisme, l'homophobie. Donc, c'est-à-dire, les mascarades, c'est ce qui est derrière cette image de l'Amérique prospère des années baby-boom.
Oui, on pourrait aussi dire que il y a des gens très conservateurs qui se donnent une image de piété, de sainteté, mais au fond, quand on va au fond de leur vie, il y a des mascarades, n'est-ce pas?
N'est-ce pas? Et moi, je voulais vraiment décrire cette époque. Et mon éditrice, Anne Pérouse, des éditions Amac, elle trouve qu'il y a quelque chose de très contemporain dans cette image. Et je pense que, je ne sais pas pour les auditeurs, auditrices aujourd'hui, les personnes qui connaissent le Wisconsin, mais je crois qu'il y a aussi des stéréotypes de ce que c'est une image de cette Amérique-là, et je pense qu'il y a certaines valeurs, malheureusement, des mauvaises valeurs des années 50, qui restent encore dominantes dans les États-Unis de 2023. Hein.
Oui, alors on oublie souvent que il y a beaucoup de francophones du Canada ou de l'Europe qui se sont déplacés et qui sont allés vivre aux États-Unis. On oublie souvent ça. Avez-vous une petite idée du nombre de locuteurs de français aux États-Unis et surtout dans le Wisconsin?
Le Wisconsin, c'est pas énorme, mais les chiffres changent toujours. Vous savez, le dernier recensement, on a fait quelques changements parce qu'à l'époque, on faisait langue française et créole française. C'est-à-dire, les créoles, surtout d'Haïti, à l'époque, étaient mélangées. C'est, dans le Wisconsin, il n'y en a pas tant que ça. Je pense que j'évoque rapidement cette histoire au début. On oublie que le Wisconsin, comme le Michigan, l'Illinois, tout ça a été perdu à l'Angleterre, en même temps que à la fin de la guerre de 7 ans. Mais les noms perdurent, les noms de villes, et il y a eu quand même des premiers explorateurs des Métis, mais c'est pas une population francophone comme on a, par exemple, dans le Maine, dans le Massachusetts, en Louisiane. C'est-à-dire, il n'y a pas une vieille couche de francophones dans le Wisconsin comme il y a longtemps.
Les mascarades du Wisconsin, j'ai le livre entre les mains de professeur Thomas C. Spear et aux éditions AMAC. On voit un monsieur devant sa grande maison, une bagnole ancienne, américaine, toujours le drapeau américain pas très loin, n'est-ce pas? Alors, le prélude m'a beaucoup ému. Vous écrivez, bien après ta mort, papa, je te ressuscite le temps de te remettre sur scène. Tu aimes tellement ça, mais à travers mes yeux à moi. On sent tout au long de ce roman, professeur, comme si vous vouliez remettre un peu la pendule à l'heure avec ce père qui était ni pire ni meilleur, vous dites, que tant d'autres. Est-ce que c'est votre propre histoire dans tout ça? Est-ce que vous avez voulu mettre votre histoire au grand jour à travers ce roman?
Mon histoire, mais comme je dis, puisque c'est une autofiction, c'est un roman qui est à la limite 100% vrai et 100% fiction inventé. Je me sers d'un exemple personnel pour en faire un exemple d'un père. Et je pense que ce que je veux poser énormément, c'est cette question de l'héritage. C'est-à-dire un héritage qui peut être positif, mais ça peut être néfaste. Mais est-ce qu'on peut s'échapper à cette éducation? On subit, on apprend, et on a des modèles. On a des modèles, en général, des parents. Et ici, il s'agit surtout du père. Et si on ressemble au père physiquement, moralement, intellectuellement, je sais pas, c'est un roman d'éducation, je pense, et... Je pose surtout cette question de ce conflit, de cet héritage père-fils, voulant rejeter ce qui est donné comme une norme, le monde du père qui domine cette famille.
Et ça peut se retrouver aujourd'hui aussi, hein, après tant d'années, les choses ne changent pas. On voit qu'il y a toujours eu des conflits dans les familles et surtout des conflits entre père et fils.
Ben, c'est une banalité peut-être, mais je sais pas, je crois que j'ai envie de voir ça beaucoup plus, d'une façon beaucoup plus large dans le sens à la fois des années 60, 70 et d'aujourd'hui avec cette, je sais pas, on va pas parler de certaines personnalités politiques, mais il y a aux États-Unis un certain racisme de base, une certaine misogynie. Qui est très répandue, homophobie remontante, et peut-être c'est quelque chose de ce qu'on voit revenir ces années 50, ces années 60, les gens qui veulent qu'on revienne vers le passé au lieu de s'ouvrir vers des nouvelles réalités. C'est pas forcément un exemple.
Oui, une certaine nostalgie. Alors en lisant votre roman, vous nous plongez dans Bulle, une ville en plein cœur de l'Amérique où s'affiche le bonheur, le progrès des années prospères, du baby-boom, comme vous l'avez dit au début. Sur une famille nombreuse règne un père dominateur, blagueur et bête sociale, un récit qui se construit à travers le regard d'un fils qui se sent et se sait abandonné par cette figure paternelle absente. Et je lis un extrait du communiqué que vous avez émis lors du lancement de ce livre. S'étant débarrassé de racines trop encombrantes, ce grand petit coq rayonne comme son pays avec sa force et son originalité ostentatoire. Parmi les thématiques de ce roman, on peut y retrouver identité masculine, relations père-fils, hérédité, conflits familiaux, homosocialité, racisme, antisémitisme, misogynie, homophobie, vie provinciale, alcoolisme, être à paraître, désir de liberté, valeurs familiales. Bref, des identités s'entrechoquent entre le père et le fils, crise d'adolescence, le fils qui veut voler de ses propres ailes. Il résiste à son père, à son éducation et à un destin tout tracé. Parlez-moi un peu brièvement de ce chapitre que je trouve intéressant. Le placard s'ouvre à la page 159.
Ben, je crois que le placard, les personnes qui nous écoutent aujourd'hui vont penser que c'est le placard de l'homosexualité et ils vont avoir tort. Et je pense que je veux tout simplement laisser ce secret-là aux lecteurs et aux lectrices. C'est-à-dire le père s'échappe à une réalité et ça fait partie du fond de cette histoire. Mais je pense que vous avez parlé de beaucoup de ces thèmes là dont l'alcoolisme, homophobie, etc. C'est-à-dire, le père incarne toutes sortes de valeurs, mais c'est également en cachant une partie de lui-même. Et ce chapitre dont vous parlez, le placard s'ouvre, c'est là où la réalité du père est révélée. Les rideaux s'ouvrent et on voit un peu qui c'est la personne. Mais je n'ai pas envie d'aller plus. Il y a d'autres placards, mais comme les mascarades, il y a comme sur la couverture, vous avez cette image idyllique d'une maison, de l'Amérique profonde, le drapeau, etc. Mais derrière ça, on a ce placard, ces secrets, des choses cachées.
Et si votre père était parmi nous, toujours vivant, est-ce que vous aurez eu le courage d'écrire ce que vous avez écrit dans ce roman?
Je crois, parce que c'est assez curieux, parce que je pensais des gens comme Marguerite Duras qui avait dit que l'amant, elle n'aurait pas pu l'écrire si sa mère et son frère n'avaient pas été morts. Et c'est sûr que la mort du père permet certaines libertés. Et en même temps, je présente un roman. Donc, tout ce qui est là est vrai, tout ce qui est là est faux. Et la question du père, je crois que c'est déjà dit dans le texte, dès le début, la paix a été faite avant la mort du père. Mais il y a quelque chose de soulevé, je pense que juste pour revenir sur cette question de l'éducation. L'éducation paternelle, l'éducation de la société. Et les deux, j'insiste beaucoup sur l'école publique, qui offre une éducation autre que l'éducation familiale.
Vous savez, beaucoup de gens parlent toujours de leur mère, de leur tante, de leur grand-mère. Je suis le premier à le dire, que je pense, quand je parle à mes amis, je parle toujours de cette éducation et des bons moments, des souvenirs qui me rappellent ma grand-mère, ma tante, parce que j'ai grandi avec eux à l'île Maurice, en Afrique. Mais souvent, on met de côté le papa. Est-ce qu'il y a une certaine pudique chez l'homme, chez un fils, dire à haute voix ses sentiments pour son père? Et moi, je trouve que vous, vous essayez de nous donner des astuces pour nous faire comprendre votre relation. Peut-être ça a été tumultueux dans des moments pour vous, mais vous parlez quand même assez longuement de votre père, cette relation père-fils, que beaucoup d'hommes d'aujourd'hui ont peur, peut-être par pudique, de parler de cette relation sentimentale, cette relation père-fils. Pensez pas?
Je ne sais pas si je vais maîtriser la question, si c'est la question, mais entre père et mère, je pense qu'au niveau du récit, le conflit est d'une certaine manière plus intéressant que la paix. Et je pense à l'exemple d'Alison Bechdel qui a fait des mémoires graphiques, un premier sur son père, Fun Home, et puis un deuxième sur sa mère. Et moi, j'avais même envisagé, pareil, de faire un livre sur le côté paternel et l'autre le côté maternel. Et je trouve que le conflit mène à un récit beaucoup plus intéressant. C'est pas forcément un conflit édipien, parce que ça c'est avec d'autres frères dans la fratrie, et je pense que j'insiste beaucoup aussi sur cette question de fratrie, dans le sens où s'il y a un conflit avec le père, ce n'est pas seulement le protagoniste, tous les enfants subissent le père de façon différente, mais je sais pas, c'est pas une question d'amour pour le père, c'est une question de reconnaître ce qu'il y a du père chez soi, ce qu'on accepte et ce qu'on rejette, je pense.
Oui. Alors, je rappelle aux gens que vous êtes professeur depuis quoi, 40 ans, plus de 40 ans. Vous vivez à Manhattan. Vous êtes professeur de langue française, de littérature francophone à la City University of New York. Parlez-nous un petit peu. Il y a beaucoup de professeurs là qui sont à l'écoute en ce moment de l'Université de Toronto et ailleurs. Comment est la vie francophone dans vos universités à New York, sur vos campus?
Ben, on a eu, puisque vous êtes à Toronto, je vous raconte, hier soir, on avait, avant-hier, on avait Catherine Mavrikakis au Graduate Center de CUNY. Le français se porte très très bien à New York, parce que nous avons des programmes dans les écoles publiques, élémentaires, secondaires. Vraiment, le français est assez dans un boom, dans le Bronx où ma faculté de base. Il y a énormément d'immigrants de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est assez curieux aussi parce que les enfants arrivent parfois avec maman qui parle français et puis ils ont d'autres langues à la maison, mais il n'y a pas forcément les deux parents qui ont le français. Et il y en a qui viennent vers le français parce que c'est tout simplement la langue de la famille quand ils rentrent au Mali, quand ils rentrent au Burkina ou au Sénégal, etc. Mais moi, je dirais que le français à New York, en ce moment, se porte très, très bien.
Oui. Vous avez fait rêver tant d'auditeurs avec vos entrevues de île en île. Ça, c'est vraiment une ressource très, très intéressante et importante pour les gens qui veulent aller découvrir la francophonie dans toute sa diversité. Vous êtes vraiment le champion dans ce domaine-là parce que vous avez vraiment fait des chefs-d'œuvre. Vous avez rencontré des gens qui ne sont plus de ce monde maintenant, entre autres mon compatriote Édouard Monique, vous savez, et vous avez rencontré tant d'autres encore en Afrique francophone et dans les Antilles. Alors, je sais que vous êtes plus à la tête de cette banque de données, il en île, mais ça existe toujours, hein, on peut y avoir accès, n'est-ce pas?
Voilà, j'ai passé plus de 20 ans là-dessus et vous parlez de Édouard Monique, je pense encore à Dave Virasamy qui vient de nous quitter, un autre de vos compatriotes, des grands auteurs. J'ai eu tellement de plaisir à connaître ces gens. Et les données d'île en île qui présentent les îles francophones de la planète, surtout leurs auteurs, les données vont rester là. Les entretiens vidéo, il y a beaucoup d'audio, tout ça, ça reste. Moi, j'ai donné une bonne vingtaine d'années. Je voulais faire une suite, ça n'a pas eu une suite, ça se fera peut-être un jour, mais les informations ne sont pas remises à jour, mais pour tous ces auteurs qui sont interviewés, qu'ils lisent des extraits de leurs textes, tout ça, audio, vidéo, les bibliographies restent disponibles au monde.
C'est un livre touchant, un livre renversant, les mascarades du Wisconsin, du professeur C. Spears, Thomas C. Spears, qui est un grand ami de la radio, un grand ami de la francophonie. Est-ce que, les gens m'ont posé la question, est-ce que vous êtes canadien, vous êtes américain? Qui est Thomas C. Spears? Comment
on dit? Je suis, mais ça c'est le problème peut-être, parce que vous verrez que le livre dans le Library of Congress, la bibliothèque américaine, je suis classé, c'est la code PQ3939 qui est pour les Américains de langue française, qui comprend la Louisiane francophone et des auteurs comme Jack Kerouac et Jonathan Little. Je suis peut-être dans un petit no man's land parce que je suis né dans le Wisconsin, je n'ai aucune parenté de langue française, c'est une langue que j'ai acquise, mais elle est devenue ma langue. Et il y a des gens qui me demandent pourquoi je n'ai pas écrit en anglais. Mon anglais est assez corrompu par mon français. Et, et je pense que depuis toutes les années, j'écris plus en français. Mais les deux langues sont la mienne. Mais je ne suis pas d'origine francophone.
Ouais, alors, Les Mascarades du Wisconsin, premier roman du professeur Thomas C. Spears, en direct de New York, aux éditions AMAC Montréal, à retrouver sur notre site popourichaud.com. J'espère vous revoir, professeur, très, très, très bientôt et plus souvent en 2024 sur notre antenne pour parler de ces francophonies aux États-Unis, mais aussi ailleurs dans le monde et tous vos projets. Tous nos vœux les plus sincères et chaleureux en 2024, santé et bonheur et beaucoup de projets en 2024, et que la force soit avec vous, professeur, et à très bientôt.
Merci beaucoup, Eric Adair, et à vos auditeurs. Là, je dis bonne fête et surtout bonne lecture, et puis à la prochaine. Merci.
Zachary Richard et le Zydeco. Joyeuses fêtes à tout le monde. Popourri Show, CUT, FM vous accompagne depuis 36 ans. I'm the Zack Attack Man from Zydeco Land, and I want you all to understand. I ain't stupid and she ain't dumb. We just come here to have some fun. So with all of the girls and with all of the guys, we ain't talking no trash, ain't telling no lie. Everybody get up, because we're gonna get down. Everybody talk about the Zydeco sound. Zydeco sound, Zydeco sound. Everybody talk about the Zydeco sound. In the city, in the country, and all around. Everybody talk about the Zydeco sound. Come on, Zack Attack, 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 Z
lot of people ask about the coffin in our bookshop. How we got it, that's a long story. But yes, it really is a coffin, and yes, it really was used, just once. Now, it's full of vampire books, horror novels, and ghost stories. Some people think it's cool, others think it's creepy, but we like it, and the guy who used to be in there hasn't complained. Sellers & Newell Secondhand Books, 672 College, and at sellersandnewell.com. Great books and a used coffin.
From the roots up, CIUT 89.5 FM, Toronto.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique, ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
Comment offrir vos vœux du temps des fêtes à l'ensemble de votre clientèle? Diffusez vos vœux sur les ondes de Télégaspé et sur nos plateformes web. Eux et bénéficiez de 4 semaines de diffusion débutant le 8 décembre et se terminant le 4 janvier 2024. Participez et courez la chance de gagner l'un des 2 haut-parleurs Bluetooth portatifs Flip 6 de JBL d'une valeur de $170 chacun. Pour diffuser vos vœux, contactez Télégaspé à l'adresse suivante, babillard@telegaspe.ca.
Le livre du jour. Chaque semaine, notre partenaire, la maison d'édition Prise de Parole, nous présente l'actualité et les nouveautés littéraires avec pour seul mot d'ordre, le plaisir. Découvrez les écrivains de la diversité francophone de l'Ontario et du Canada. Chaque dimanche, Popourri Show et Prise de Parole.ca nous donnent envie de déguster des histoires, dévorer les pages, savourer les mots enfin gourmets de la littérature. Retrouvez sans attendre toutes les entrevues des autrices et des auteurs sur popourrichaud.com ou découvrez tout simplement les nouveautés littéraires du moment sur prisedeparole.ca. Quoi de neuf? Les cafés du Créfaux. En partenariat avec Popourrichaud et CUT 89,5 FM. Comment évoluent nos modes de vie et nos sociétés dans le monde? Comment se porte le monde de l'éducation, les francophonies et la diversité. Bienvenue au podcast Quoi de neuf à les cafés du Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, et la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto et l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario. Le CREFO, un centre de recherche interdisciplinaire qui pose un regard critique sur les pratiques éducatives, sociales et langagières de la francophonie en Ontario, au Canada et dans le monde. Abonnez-vous au podcast Quoi de neuf à les cafés du CREFO et c'est gratuit. Vous pouvez y avoir accès où que vous soyez dans le monde. Et cette troisième saison est animée par professeur Laura Bisaillon et tourne autour du thème de la production, de la diffusion des connaissances sur les mobilités, les francophonies, la minorisation, le corps et l'État dans divers contextes du monde. Quoideneuf.ca. Abonnez-vous maintenant. Vous êtes bien sûr CUT 89,5 FM à Popourichaud, 36 ans déjà. On est si bien ensemble. Quelques dernières nouvelles de nos partenaires. Le CREFO vous annonce la parution du livre « Voix et visage du français en Ontario, perspective de pédagogue en formation » dirigé par professeur Emmanuel Lepuchon, aussi directrice du CREFO, et préfacé par professeur Diane Gérin-Lajoie. Ce recueil, enrichi par les contributions de 19 enseignantes et enseignants en formation, offre une plongée captivante dans les différentes perspectives sur l'enseignement du français en Ontario et vous invite à découvrir quelques voix et visages d'enseignants qui façonnent le paysage éducatif. Chaque chapitre de ce livre vous plonge dans des récits de vie parfois poignants, parfois joyeux, toujours riches en diversité linguistique. Ils explorent les thèmes de l'insécurité linguistique, de l'identité, de la discrimination, de la minorisation, de la mobilité, des idéologies, de la colonisation et des savoirs. Vous découvrirez que finalement il est possible de construire une pédagogie adaptée sur le plan culturel et linguistique en s'inspirant des expériences des enseignants et de leurs précieuses ressources linguistiques et culturel. Un voyage captivant au cœur de l'éducation inclusive. Et ce livre est une ressource incontournable pour les enseignants, les étudiants, les administrateurs, les parents et les jeunes chercheurs intéressés par l'inclusion dans l'éducation en francophonie ontarienne. Pour une expérience enrichissante, vous pouvez également écouter les balados du CREFO intitulés « Quoi de neuf » en parallèle à votre lecture. Vous pouvez acheter ce livre, voilà un petit cadeau de Noël peut-être, directement auprès de la maison d'édition Prise de Parole, en format papier ou électronique, pour commander votre exemplaire et plonger dans ces riches réflexions sur l'éducation en français en Ontario. Rendez-vous sur le site de prisedeparole.ca, prisedeparole.ca. La saison des fêtes est à nos portes pour une 36e année. Popourichaud apportera un peu de chaleur, un peu de bonheur dans la vie de certaines familles francophones et réfugiés vivant à Toronto. Êtes-vous seul à la veille de Noël? Vous ne savez pas quoi faire? Le 24 décembre, French Friday, un groupe de réseautage pour francophones francophiles à Toronto, organisera son traditionnel réveillon des orphelins de Noël. Une super soirée, tous ensemble, on y dégustera de délicieuses spécialités au restaurant Korean Village, 628 rue Blue West. Il faut absolument vous inscrire sur Eventbrite. Vous retrouverez le lien et l'adresse sur notre site popourichaud.com. On en parle avant la fin de l'émission avec Zéfred, cinématographe et membre du French Friday. Après le succès de sa 26e édition au mois de novembre, Ciné Franco en décembre, gratitude et perspective jeunesse. Dans le cadre de sa place au cinéma, la bibliothèque de référence de Toronto programme le film de Philippe Loiret. Welcome, présenté par Marcel Lynn, fondatrice de Ciné Franco et amie de la radio depuis toujours. Sorti en 2009, ce film reste toujours d'actualité. Le 18 décembre, donc demain lundi à 18h à la bibliothèque de référence de Toronto, Marcel Lynn sera des nôtres pour quelques minutes avant la fin de l'émission. À ne pas rater.
Culture d'Haïti et d'ailleurs, croisons nos regards dans Causer Kilti, le rendez-vous des cultures en Haïti, tous les dimanches après-midi à 1h33 et 8h33 sur RFI.
Bien, si ça vous fait plaisir. Vous présentez le rendez-vous d'Haïti et des Amériques.
Merci, Gilles Moreau. Bonjour à toutes et à tous. La police haïtienne continue ses tractations au Kenya pour le déploiement d'une force multinationale. Une délégation de la PNH se trouve en ce moment à Nairobi, alors que la justice kenyane bloque pour l'instant le déploiement de policiers kenyans sur place. Une rencontre diplomatique cruciale aujourd'hui sur l'épineux dossier de l'Essequibo. Les présidents du Guyana et du Venezuela se rencontrent pour parler de cette région du Guyana revendiquée par Caracas. Mais les positions des deux présidents semblent inconciliables. Et puis dans le journal de l'Outre-mer, Benoît Ferrand, on parlera de la lutte contre leur pariage clandestin, fléau en Guyane.
Oui, une lutte qui continue et s'intensifie, même si elle s'apparente parfois à vider l'océan à l'aide d'une petite cuillère, surtout dans l'ouest du territoire guyanais. C'est ce que nous dira tout à l'heure notre confrère Laurent Marot.
Merci Benoît Ferrand, on vous retrouve dans une quinzaine de minutes.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Haïti toujours dans l'attente du déploiement d'une mission multinationale. Dans ce contexte, une délégation de la police nationale haïtienne, la PNH, se trouve à Nairobi au Kenya, puisque le Kenya s'est porté volontaire pour diriger cette force. Cette mission a été approuvée en octobre par le Conseil de sécurité de l'ONU pour aider la police haïtienne à faire face aux gangs. Mais pour l'instant, la justice kenyane bloque son déploiement et cette nouvelle visite haïtienne soulève donc des critiques, Alban Tiroir.
Le chef de la police haïtienne, France LB, a rencontré hier son homologue kenyan, Jafet Kome, à Nairobi, pour des discussions bilatérales autour de la sécurité, a indiqué la police kenyane sur son compte Twitter. La semaine dernière, une délégation de Nairobi s'était déjà rendue en Haïti et y avait rencontré, entre autres, le Premier ministre, une visite en préparation à l'arrivée prochaine de la mission multinationale de soutien à la sécurité, avait alors indiqué la primature haïtienne. Le Parlement kenyan a approuvé le mois dernier l'envoi de 1000 policiers dans le pays des Caraïbes, mais le même jour, la justice kenyane prolongeait la suspension de leur déploiement. Devant les parlementaires, le ministre de l'Intérieur a affirmé que cette suspension n'empêchait pas les préparations de la mission, un avis non partagé par l'avocat et opposant politique Ekuru Okot, à l'origine du recours en justice. Pour lui, cette nouvelle visite à Nairobi est le signe, je cite, que le président Ruto ne respecte pas l'état de droit. La décision d'envoyer des policiers kenyans en Haïti est vivement critiquée depuis son annonce. La haute cour de Nairobi doit rendre son verdict le 26 janvier. Alban Tiroir, Nairobi, RFI.
Et l'envoi de 1000 policiers kenyans en Haïti coûterait 241 millions de dollars pour un an, selon le ministre de l'Intérieur kenyan. 600 millions pour toute la mission. Les frais devront être pris en charge par l'ONU, a affirmé le ministre. La PNH qui se trouve sur le pied de guerre en Haïti, on en parle aujourd'hui avec Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste. De nombreux policiers sont déployés en ce moment à Mariani, entrée sud-est de Port-au-Prince. Elle essaie, cette police, de déloger des bandits armés qui s'y sont établis depuis le 1er novembre, Franz.
Tout à fait. Mariani, c'est le dernier quartier, le dernier point chaud à être tombé dans l'escarcelle des bandits. C'était en novembre 2023, récemment. Et depuis, la police nationale affronte les gangs, affronte les hommes armés qui occupent cette portion de la route nationale numéro 2, une portion essentielle où tout le trafic vers le sud du pays, le sud-est, l'Artibonite et la Grandence et les NIP, tous ces trafics sont contrôlés par cette zone. Et on n'a pas le choix, c'est ou la mer ou rien du tout. Et la police se bat contre eux, mais à chaque fois, et les bandits redeviennent plus forts, ils recrutent d'autres personnes de la région et les affrontements ne font que se perpétuer, même s'il y a beaucoup de bandits qui ont été tués. Des policiers aussi ont été tués dans cette zone. Et pour le moment, il y a un calme précaire, mais on ne sait pas comment ça va se passer parce que les bandits reviennent toujours à la charge depuis le 1er novembre.
Haïti, France, où la quatrième mission de la CARICOM s'est achevée hier. Encore une fois, dites-vous, dans le Nouvelliste, les acteurs politiques n'ont pas pu arriver à un accord.
Effectivement, et ça s'est soldé encore une fois par un échec, par aucune conclusion. Aucun accord entre les Haïtiens, les acteurs de la classe politique, de l'opposition, mais aussi du gouvernement, les alliés du gouvernement. Ils se sont parlé pendant plusieurs jours, se sont parlé surtout à distance, mais n'ont pas pu s'entendre sur quoi que ce soit. Il n'y a pas un papier final, il n'y a pas une position arrêtée. Et la CARICOM, les éminentes personnalités de la CARICOM, d'anciens premiers ministres de pays de la Caraïbe qui étaient venus pour être facilitateurs, sont repartis bredouille, comme c'est écrit dans le Nouvelliste. Et le Nouvelliste insiste aussi pour dire en éditorial que le problème de la CARICOM, c'est que la CARICOM n'a ni carotte, ni bâton. La CARICOM ne peut pas forcer le Premier ministre à prendre une position. ni ne peut pas permettre à l'opposition de prendre le pouvoir. Alors c'est plutôt comme ça que les Haïtiens voient la chose. La CARICOM est un élément neutre dans une opération complexe où les acteurs haïtiens, chacun croit que le temps joue pour lui.
Et on parle justice également dans le Nouvelliste ce jeudi, Franz. 4 juges ont été désignés pour instruire plusieurs dossiers chauds, dont celui portant sur l'assassinat de l'ex-bâtonnier Montferrier Dorval.
Tout à fait. Ça fait longtemps que le président Dorval a été assassiné. C'était en août 2021. Les juges d'instruction changent à chaque fois régulièrement. Aucun ne reste sur le dossier. Un nouveau juge vient d'être désigné. Il y a aussi d'autres cas d'accusations de corruption et que l'unité de lutte contre la corruption a documenté, qui ont été transmis à des juges d'instruction. Tout ça va faire l'objet d'enquêtes. On espère qu'ils finiront par aboutir à des procès. Mais le problème avec les juges en Haïti, c'est que souvent, ils prennent les dossiers. Cela passe un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, et après, le juge décide de laisser tomber, disant qu'il n'a pas les moyens de faire aboutir les enquêtes, mais souvent, surtout, qu'il n'a pas les moyens pour assurer sa propre protection, parce qu'on les nomme sur des cas très lourds, et on ne leur donne pas de moyens, ni d'agents de sécurité, ni de véhicules adéquats pour circuler, et il y a eu des attaques contre des juges ont été rafalés, des juges ont été attaqués chez eux, et beaucoup de juges sont partis, ont laissé le pays, ont pris l'exil après avoir été sur des cas lourds.
Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste, comme tous les jeudis avec nous sur RFI. Dans quelques minutes sur RFI, vous avez rendez-vous avec Chantal Laureau qui présente de vive voix. On parlera théâtre avec la pièce « La femme n'existe plus » au Théâtre du Rond-Point à Paris. Une fable loufoque sur la disparition des femmes. Mais d'abord, on retrouve nos confrères de la première.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec vous, Benoît Ferrand. En Guyane, la lutte contre l'orpaillage clandestin se poursuit.
Elle s'intensifie même en Guyane française, bien sûr. Pas moins de 84 sites illégaux ont été démantelés entre le 13 novembre et le 7 décembre dernier, principalement sur une zone de 5000 km² dans l'ouest du territoire. Alors, petit problème tout de même, et même gros problème pour être précis, les garimpéros chassés reviennent un peu plus tard et se réinstallent comme si de rien n'était. Laurent Marot.
Il s'agit des collines de Saint-Jean-d'Abounami entre Papaïcheton et Grand-Senti, l'une des zones les plus rentables de l'orpaillage illégal où les garimpéros creusent des galeries pour extraire l'or de Guyane. Les démineurs de la sécurité civile ou les militaires du génie ont détruit 40 puits et galeries dans ce secteur, plus 9 concasseurs. 40 kilos d'explosifs ont aussi été saisis, signe du dynamisme de l'activité dans la zone. Malgré les coups portés par les autorités à l'activité clandestine, on constate que ça continue. Ils réussissent encore et toujours à exfiltrer l'or de la Guyane vers le Suriname. Par exemple, en 3 semaines d'opération du 13 novembre au 7 décembre, seulement 180 grammes d'or ont été saisis. L'or qui plus est à un cours élevé, 59 000 euros le kilo, sert de carburant à l'activité clandestine. En quelques mois, le matériel acheté au Suriname est rentabilisé. Une fois détruit, on le remplace grâce aux recettes de l'or exfiltré. Au-delà des résultats indéniables de l'opération Harpy, la solution est en grande partie diplomatique dans le cadre de la coopération avec le Suriname. Mais là, ça avance tout doucement.
Direction la Martinique maintenant. La Martinique où est arrivé hier le président du Bénin, Patrice Talon, un chef d'État étranger en visite officielle dans un département français. Ça n'est pas tous les jours. Le chef de l'État de l'ex-Dahomey s'est entretenu avec le président de la collectivité, Serge Letchimy, et il a notamment été question d'une liaison aérienne directe entre Fort-de-France et Cotonou. Patrice Talon.
Nous allons convenir avec une compagnie aérienne qui déjà opère sur ces régions, convenir avec elle pour ouvrir cette ligne. Et comme il est évident qu'elle ne peut être rentable dans les premières heures, il faudra nécessairement un soutien financier. Et il faut le faire pour promouvoir la mobilité entre nos deux pays et ouvrir les opportunités pour les hommes d'affaires, pour les touristes, de pouvoir venir ici et là. Parce que la liaison existerait et leur permettrait donc de le faire. À défaut, nous resterons encore des générations, des décennies à ne pas avoir cette mobilité, cet échange de mobilité entre nos deux régions.
Patrice Talon, président du Bénin, au micro de Manuel Larade de la Première Martinique. Bon après-midi Marion, à demain.
À demain, Benoît Ferrand. C'est ainsi que s'achève ce journal d'Haïti et des Amériques réalisé par Hélène Avril, ainsi que cette grande édition d'information de la mi-journée RFI Midi. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques secondes, vous avez rendez-vous avec Chantal Leroux pour De Vive Voix.
Eh oui, Popori Show et CUTFM remercient chaleureusement le Comité international pour la promotion du créole et de l'alphabétisation, KEPKA, et le Mois du créole à Montréal pour les deux prix de reconnaissance dans le cadre de nos émissions spéciales Mois du créole édition 2022. Et oui, nous sommes extrêmement honorés de recevoir cette reconnaissance. Le KEPKA, un organisme à but non lucratif légalement constitué, qui a vu le jour à Montréal le 13 avril 1997, a pour mission de défendre et de mettre en valeur les langues et les cultures créoles par les arts, l'éducation populaire, le partage et la sensibilisation. Il contribue au rayonnement et à l'enrichissement des patrimoines culturels du Québec et du Canada par la diffusion des littératures créoles et africaines. Il aide les jeunes créolophones canadiens et québécois à découvrir leurs identités. Il crée le pont entre les créolophones du Québec, des Caraïbes, de l'océan Indien et des diasporas. Il développe des échanges entre les auteurs, les artistes, les chercheurs et les amis de la langue créole par l'organisation de multiples activités hautement culturelles et artistiques. Toute l'équipe de la radio dit haut et fort, merci en pile à KEPKA et le Mois du créole à Montréal. Pour tout savoir sur ces prix de reconnaissance, popourishow.com. Au mois d'octobre, vivez au rythme des cultures créoles du monde sur CUT 89,5 FM Toronto.
Toute l'équipe de la radio vous souhaite de joyeuses fêtes. CUT FM, 36 ans déjà.
Il était un Père Noël. Il était un Père Noël
qui avait un drôle de traîneau, qui avait un drôle de traîneau.
C'est, il était un Père Noël
qui ouest, qui
il était un Père Noël
qui avait un Alléluia, alléluia.
C'est des accès.
Alléluia, alléluia.
fêter, c'est des sacs.
Alléluia, alléluia.
Des zombies, c'est des rabats.
Alléluia, alléluia.
J'ai une petite poulette qui a tué la veine.
Alléluia, alléluia.
Ah, donc coup de balai. Ok, maman, elle saute parée. Elle parée.
Toute l'équipe de la radio vous souhaite de très joyeuses fêtes.
Alléluia,
alléluia.
Des hommes et des rabats.
Alléluia, alléluia.
J'ai une petite poulette qui a tué la bête.
Alléluia, alléluia.
Ah, dans coup de palais.
Alléluia, alléluia.
Je m'en ouvre une café paré.
Alléluia,
c'est des sacs.
Alléluia, alléluia.
Des hommes disent des rabats.
Alléluia, alléluia.
J'ai une petite poulette qui a tué rabat.
Alléluia, alléluia.
Troubadour qui a belle à voir.
Alléluia, alléluia.
J'ai une petite poulette qui a tué rabat.
Alléluia, alléluia.
Ah, non, coup de balai.
Alléluia, alléluia.
Comme on ouvre une café farée.
Alléluia, alléluia.
Et à ne pas oublier, dans un instant, nous allons recevoir Zéfred qui nous invite au réveillon des orphelins et Marceline sera des nôtres. Fin de l'émission. La saison des fêtes avec Popourri Show et CUT 89,5 FM. Vous êtes près de 100 000 abonnés à contribuer au succès de notre radio. Alors, merci. Que vous soyez à Toronto, au Canada ou ailleurs, vous, les artisans de justice et de paix, Popourri Show et CUT FM vous souhaitent de joyeuses fêtes.
Proudly student and listener supported community radio. CIUT 89.5 FM, celebrating 35 years as the sound of your city.
À la récréation, une petite fille lui a dit tu es noire comme du caca. Et ça l'a blessée. Elle m'a dit qu'elle a pleuré. Et donc, à la
elle est venue vous le raconter après, à la fin de la journée.
Voilà, dès la fin de la journée, elle m'a raconté. Je n'avais pas les mots sur le coup parce que je me suis dit que je ne l'avais pas préparée à ça. Je ne pensais pas que dès la première section de maternelle, elle aurait eu des commentaires par rapport à sa couleur de peau.
Racisme, sexisme, homophobie, islamophobie. Et oui, compte tenu de l'augmentation du nombre d'actes de racisme et de discrimination envers les francophones issus de la diversité, Popourri Show présente le racisme et l'homophobie au sein de la francophonie d'ici et d'ailleurs. Des témoins victimes nous ont raconté leurs expériences, de la plus ordinaire à la plus violente, dans l'espoir que leur témoignage serve à quelque chose. Popourri Show, CUT, 89,5 FM, 36 ans. Chaque dimanche, 11h à 13h, sur www.cut.fm ou popourrishow.com. Une initiative pour répondre aux recommandations de la Commission ontarienne des droits de la personne annoncée en mars 2023.
Nous filons sur la neige blanche en ce beau jour de dimanche. À travers les sapins verts, c'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver.
Thank you.
Et oui, toute l'équipe de Potpourri Show et CUTFM vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année. C'est une année un peu difficile pour beaucoup de gens. Les banques alimentaires canadiennes font face à une demande accrue cette année. En cette période de fête, n'oublions pas aujourd'hui les nombreux réfugiés victimes de la guerre, des zones de conflit, des réfugiés politiques, des réfugiés qui cherchent refuge au Canada à cause de leur orientation sexuelle. N'oublions pas les marginalisés, les personnes seules, les orphelins et les personnes âgées qui risquent d'être mises au rebut. Ces détenus que nous regardons seulement pour leurs erreurs et non comme des êtres humains. Alors, joyeux Noël, happy Hanukkah, happy Kwanzaa. Et je vous rappelle, à ce jour, nous avons amassé, tenez-vous bien, la somme de 90 000 dollars, un peu plus de 90 000 dollars, et oui, depuis notre récolte de fonds au mois de novembre. Nous vous sommes très, très, très reconnaissants de votre générosité et de votre soutien continu depuis 36 ans. Et oui, un merci spécial à tous nos donateurs, donatrices de France, de Montréal et Wiltrud from Germany. Merci pour les euros que nous avons reçus cette semaine. Et oui, ouais, on a reçu des euros. Et oui. Have a great Christmas, Wiltrud. Et je sais qu'elle écoute religieusement chaque dimanche. Soyez heureux et prenez soin de vous. Dans un instant, nous allons parler à un membre de French Friday, un groupe de réseautage pour francophones, francophiles du Grand Toronto, qui organise sa rencontre traditionnelle du réveillon de Noël pour les personnes seules, les orphelins, les nouveaux immigrants francophones, francophiles, qui ne savent pas quoi faire ou se donner la tête dimanche 24 décembre à 20h. On vous y attend au restaurant Korean Village, 628 rue Bloor West. Très facile d'accès, métro Bathurst. Une superbe soirée, nous dit-on, où tout le monde est bienvenu. Et dans une fraction de seconde, nous allons accueillir un des organisateurs, des chefs, Zef. Eh oui, bonjour, bonjour Zef, comment allez-vous ce matin?
Bonjour, bonjour, tout va bien, tout va bien.
Oui, alors merci d'être au rendez-vous. C'est une tradition, hein, chez vous, maintenant?
Ben ça y est, c'est devenu une tradition, oui, apparemment.
Avec le Covid, malheureusement, qui a entravé un petit peu vos plans. Alors, ça fait tellement plaisir, après des années de silence à cause du Covid, vous reprenez du service, vous avez quelques minutes pour convaincre ces timides, ces orphelins à l'écoute qui hésitent encore à faire le pas dimanche prochain?
Bah, écoutez, oui, enfin, il n'y a pas vraiment de timidité à avoir. Hein. C'est un événement qu'on organise tous les ans pour les nouveaux arrivants, les gens qui n'ont pas de famille ici, les gens qui sont seuls pour le réveillon de Noël. Et voilà, on fait ça dans un restaurant coréen parce que, évidemment, tous les restaurants de confession catholique ou chrétienne sont fermés ce soir-là. Mais oui, on est toujours une 15-20aine et il y a un petit cadeau de Noël pour tout le monde. Et puis, on passe un bon moment.
Alors, voilà. Il faut s'inscrire, hein, ça c'est très important. Parce que
oui, donc, il faut s'inscrire, bien sûr, parce que nous, il faut qu'on sache combien de personnes vont venir pour pouvoir prévenir le restaurant de nous garder une table à la taille ou plusieurs tables à la taille. Donc, évidemment, il faut réserver, oui.
Oui. Alors, même si on baragouine le français, on parle le français comme une vache espagnole, tout le monde est bienvenu.
Tout à fait.
Alors, parlez un petit peu de ce Secret Santa. Les gens m'ont posé la question, mais de quelle valeur? Qu'est-ce qu'il faut apporter? Ou c'est une surprise? Parlez un petit peu.
C'est plus pour le fun, en fait, oui. Pour une chose. Donc, on demande aux gens de venir avec un petit cadeau d'une valeur de moins de 10 dollars pour pouvoir faire un tirage au sort à la fin où tout le monde aura un petit cadeau de Noël, quoi. Oui.
On peut aussi avoir quelque chose un petit peu plus de 10 dollars. Ça dépend des goûts, hein, des gens, de leur générosité, n'est-ce pas?
Oui, mais bon, comme on veut pas que les gens se ruinent non plus, on préfère préciser que 10 dollars au moins, c'est très bien.
Est-ce que vous avez une idée de mais qu'est-ce qu'on va déguster ce soir-là?
En fait, c'est le menu régulier du restaurant, donc c'est de la nourriture essentiellement coréenne, donc du barbecue de coréen avec de la viande, des légumes. Ils ont des plats spécifiques coréens aussi, enfin bibimbap, tout ce genre de choses. Oui. Si vous connaissez un peu la nourriture coréenne, sinon vous pouvez toujours regarder le menu en ligne. Mais c'est un petit peu exotique, mais c'est pas non plus complètement fou.
Et c'est dimanche, donc, le 24 décembre. Vous savez, moi, j'ai vécu un petit peu partout à l'étranger et je me suis retrouvé un jour, un 24 et 25 décembre, seul dans un train en Madagascar. Et je peux vous dire que j'étais triste parce que j'étais seul, loin de tout le monde.
Ah ouais. À Madagascar, tout seul.
Tout seul, parce que je faisais la navette. Vous savez, c'est une grande péninsule, comme vous le savez. Alors, donc, sortir d'un village pour aller à Antananarivo, la capitale, ben, ça prend des heures et des heures et des heures. C'était un train qui roulait pas très vite, hein. On appelle le TGV, hein, à Madagascar, à l'époque. Là, je vous parle des années 70, hein, 78, hein, 79.
Ouais.
Mais c'est ça, moi je trouve que c'est tellement bien d'avoir pensé à cette activité parce que les gens, il y en a des gens qui aimeraient peut-être retrouver d'autres personnes ce soir-là.
Ah oui, il y en a beaucoup, oui, il y en a beaucoup.
Oui. Alors, parlez-nous un petit peu de French Friday, ça marche toujours, vous organisez toujours des rencontres mensuelles.
Pour l'instant, non, on avait arrêté à cause de Covid, mais je pense qu'on va se remettre à les faire bientôt, là, oui.
Et d'ailleurs, les gens peuvent devenir membres, vous retrouvez sur Facebook, vous tapez French Friday, vous allez tomber sur la page automatiquement de sur Facebook. Comment s'est passée votre année 2023?
Comment, quoi, pardon?
Comment s'est passée votre année 2023? Ça s'est bien passé, à votre goût?
Ah non. Ah ouais. Non, moi je travaille dans le cinéma, donc cette année a été vraiment une année sinistrée, quoi.
C'est vrai, vous êtes dans le film, le cinéma.
Ouais. Donc avec la grève des auteurs et la grève des acteurs, ça a été vraiment une année terrible. Oui. Mais écoutez, on survit et puis on avance, hein.
Ouais. Alors, dimanche 24 décembre 2023 à 20h, il y a aussi du stationnement, vous dites, pas très loin, c'est très facile d'accès. C'est le métro Bathurst, 628 rue Bloor-Ouest. Si vous venez en voiture, donc, il y a plein de places de stationnement autour du restaurant. Et je vous rappelle que vous pouvez aussi aller sur notre site pour avoir plus de renseignements. Vous avez la photo qui a fait ce design, la photo du Père Noël. C'est très bien fait, hein? C'est vous?
Oui, c'est moi qui fais ça, oui.
Ah, c'est super. Alors, c'est sur notre site popourichaud.com. Vous allez tomber sur... Alors, vous allez sur Eventbrite. Vous devez réserver parce que c'est très important que le restaurant soit courant, hein, du nombre de personnes présentes ce jour-là. Alors, allez sur notre site et vous cliquez sur Eventbrite et vous allez tomber sur la page d'invitation et là, comme ça, vous pourrez réserver. Merci encore, Zef, pour l'organisation de cette soirée au nom de toute l'équipe et de tous les auditeurs qui nous écoutent. Vous savez, nous avons des gens qui nous écoutent même à Port-au-Prince, à l'île Maurice, à l'île de la Réunion, en Bretagne, à Lyon, à Toulouse. Alors, ils sont toujours émerveillés de savoir que la communauté francophone à Toronto soit si vivante, mais malheureusement un peu effacée ou dont on n'entend pas toujours parler sur la scène internationale. Alors là, j'espère que les gens seront intéressés, hein, à savoir qu'il y a une communauté francophone qui fait des choses intéressantes à Toronto, n'est-ce pas?
Ben, j'espère, oui.
Allez, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024?
Plein d'amour, plein de bonne santé, plein de choses intéressantes.
Allez, bonne année, happy Hanukkah, happy Kwanzaa, et je vous souhaite beaucoup de bonheur, que vos projets se réalisent, et que la force soit avec vous, Zef. À très bientôt.
Merci beaucoup, au revoir, et à vous aussi, à bientôt.
Rap.
Dans un instant, nous allons conclure ce beau voyage intercontinental avec une grande dame du cinéma francophone, connue comme Barabbas dans La Passion, Marceline, fondatrice de Ciné Franco, qui sera la présentatrice du film Welcome, un drame de bonne facture sur la condition des migrants à Calais. Eh oui, ce fameux sujet, l'immigration qui fait couler beaucoup d'encre et soulève de passion des polémiques. Après le rejet de son projet de loi à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur du gouvernement français s'est rendu dans les Hauts-de-France pour saluer la sécurisation du littoral et annoncer des moyens supplémentaires. La veille, deux personnes sont mortes alors qu'elles essayaient de se rendre en Angleterre à bord d'embarcations pneumatiques. Chez nous aussi, hein, on en a eu des morts l'hiver dernier à la frontière. Par contre, changement de cap en Italie. En effet, le gouvernement d'extrême droite dirigé par Giorgia Meloni va faire entrer sur le sol italien 500 000 travailleurs étrangers d'ici 2025. Il s'agit des quotas d'immigration légale les plus importants depuis 2011. Raison ? Manque de main-d'œuvre. Allez, je pense que je vais plier bagage et aller vivre en Italie. Dans le cadre de son programme « Sa place au cinéma », la bibliothèque de référence de Toronto vous invite à une projection gratuite demain, lundi 18 décembre, à 18h. Marceline, fondatrice de Ciné Franco, nous présentera l'émouvant film de Philippe Loiret sur les réfugiés de Calais. Mais juste avant, on écoute la chronique de Stéphane Guillon sur France Inter qui parle de « Welcome », le film de Philippe Loiret, sorti en 2009. Et juste après, Marcel Lune, en direct de la planète Ciné Franco. Ciné Franco en décembre, gratitude et perspective jeunesse.
France Inter.
Alors, j'ai lu dans la presse que notre sémillant ministre de l'immigration, Éric Besson, n'aimait pas le nouveau film de Philippe Lioret, Welcome, sorti demain en salle. Du coup, ça va faire un carton. Éric Besson, il suffit qu'il dise qu'il n'aime pas un film pour que tout le monde s'y précipite. Ils vont battre les ch'tis. Prenez bien vos papiers sur vous si vous y allez, il risque d'y avoir des contrôles à la sortie. Le bonhomme est rancunier. Welcome, c'est l'histoire d'un clandestin à Calais qui apprend à nager dans une piscine afin de rejoindre l'Angleterre à la nage. Le professeur de natation est joué par Vincent Lindon qui est excellent, je le dis. Il enseigne un style de crawl un peu saccadé à la Vincent Lindon, mais très efficace. Pour nous, Français, aller en Angleterre, c'est très simple. Il suffit de se rendre gare du Nord, de prendre un billet d'Eurostar et 2 heures plus tard, on est au cœur de la City. Mais pour un Afghan, c'est beaucoup plus compliqué. Il doit y aller à la nage ou se dissimuler sous les essieux d'un 33 tonnes. Le Soudanais, l'Éthiopien, le Malien, même chose. Le clandestin a une approche du voyage très particulière. Par exemple, il ne prend jamais de billet d'avion. Il préfère se glisser discrètement dans un train d'atterrissage, ce qui est beaucoup plus dangereux qu'en cabine. Les roues de l'avion, lorsqu'elles rentrent dans la carlingue, broient le clandestin. L'Éthiopien, bien plus fin que l'Afghan, arrive à se glisser sur le côté, mais meurt 1 heure plus tard congelé. À moins 40, on a beau multiplier les épaisseurs de vêtements, ce sont le plus souvent des fringues de mauvaise qualité, on imagine difficilement un clandestin s'offrir un cachemire triple fil ou une doudoune Montclair. Toujours est-il qu'Éric Besson a détesté Welcome. Cette histoire de clandestin qui apprend à nager pour gagner l'Angleterre, ça le met hors de lui. Au bout de 10 minutes, il a quitté la projection. Il a croisé Christine Boutin qui, elle, sortait furieuse d'Harvey Milk avec Sean Penn, une histoire de PD. D'ailleurs, le cinéaste qui veut agacer Besson et Boutin à la fois, il faut qu'il écrive l'histoire d'un sans-papier homo qui traverse la Manche à la nage. L'Afghan efféminé, je vous le ferai un jour, c'est très très drôle. Besson est pour le respect des lois. Aider un sans-papier est passible de 5 ans de prison ferme. Non. Truquer des élections, mettre en danger la démocratie, c'est 10 mois avec sursis, pas plus, Nicolas. En même temps, si Lioré avait filmé pendant 2 heures un gars dans l'Eurostar se rendant en Angleterre avec des papiers en règle, ça aurait fait chier tout le monde. Même avec un très très bon Lindon dans le rôle du contrôleur. Bon, ce film n'en demeure pas moins hors la loi. Il faut réagir. Si on ne fait rien, demain, Vincent Lindon tournera un film dans lequel il entraînera un sans-papier à résister à des froids polaires. L'intrigue, Bilal, jeune kurde, veut prendre l'avion pour l'Angleterre. Lindon, responsable surgelé chez Picard, l'entraîne à rester plusieurs heures dans un compartiment réfrigéré. Le film démarre sur le visage frigorifié de Bilal, reposant sur une pile de pizza 4 fromages. Non, pour Éric Besson, Philippe Lioret a franchi la ligne jaune. Suggérer dans un film que la police française, c'est la police de Vichy, que les Afghans sont traqués et martyrisés, c'est insupportable. Ah bon? Le film de Lioret ne serait qu'une pure fiction. Il aurait tout inventé. Pourtant, d'après les associations humanitaires présentes à Calais, le réveil de l'Afghan est souvent viril. Coup de matraque pour mettre les idées au clair, gaz lacrymogène pour désinfecter matelas et couvertures. On est loin du café croissant. C'est bizarre de les traiter comme ça. En plus, les chiffres sont formels, il n'y a aucune délinquance à Calais. Dans son pays, le migrant a fait des études, il est généralement cultivé et courtois. Son seul défaut, ça doit être cette façon si particulière de préparer ses voyages. Je ne vois que ça. Vous êtes 2 millions à nous écouter. Allez voir Welcome de Philippe Lioret. Vous verrez un très très bon film et vous ferez chier Besson. Double plaisir. À demain.
Welcome, un drame de bonne facture sur la condition des migrants à Calais, présenté à la bibliothèque de référence de Toronto lundi 18 décembre à 18h. Et accueillons chaleureusement notre ami de toujours et partenaire qui célèbre la 26e année de Ciné Franco. Bonjour Marcel Lynn.
Bonjour Eric. Alors, merci. Merci comme de coutume de m'avoir à ton émission extraordinaire.
Alors, vous êtes la cerise sur le gâteau pour cette dernière émission en direct. Et nous sommes très très heureux de vous accueillir. Tout le monde va bien chez vous, monsieur, les voisins,
non,
la famille, les enfants?
Non, pas vraiment. Nous sommes sous l'emprise d'un virus grippal.
Ah mon Dieu. Alors, welcome demain soir à la bibliothèque de référence de Toronto, un drame réaliste et émouvant sur les clandestins, alors que tout le monde est dans l'euphorie de la fête. Vous mettez en lumière, comme toujours, des vies de ces gens vulnérables de notre société. Vous aurez pu choisir un autre film, mais pourquoi celui-là? Welcome.
C'est parce que justement c'est un film d'actualité où on ne parle pas assez de la misère, des difficultés, des obstacles de ces personnes qui fuient leur pays pour sauver leur vie, pour essayer aussi de sauver leur famille. C'est une période justement où l'on doit penser aux autres, où l'on doit essayer de leur apporter nos pensées généreuses et en même temps nos sentiments de soutien.
Alors, c'est un film à une double dimension sociale et humaine. Parlez-nous un petit peu justement de cette rencontre cinématographique qu'organise la bibliothèque de référence de Toronto, parce que vous y participez, je pense, régulièrement, n'est-ce pas?
Oui. Alors, justement, Peter Coupidura, qui est le responsable de la programmation francophone française, m'invite très souvent à programmer des films. C'est un grand cinéphile lui-même, un excellent francophone également. Et justement, nous parlons toujours du contenu de la programmation et nous étions sur la même longueur d'onde à propos de Welcome. welcome. Donc demain, 18 décembre, à 18h. Et puis, donc le film sera suivi d'un débat. Oui. Et je dois vous dire que ce film qui avait obtenu... Alors, je n'ai pas pu entendre cette extraordinaire morceau enfin d'Europe 1, mais est-ce qu'on a bien mentionné que le film avait obtenu le prix luxe du Parlement européen?
Oui, oui, en effet. C'est de oui. France Inter, hein, de France Inter.
Voilà, mais... c'est France Inter, mmh. pardon, oui. France Inter. Parce que justement, ce qui est très très intéressant, c'est ce parallèle que Philippe Lioret avait fait entre la Deuxième Guerre mondiale, 1943, les Français qui avaient protégé et caché des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme je disais, et ensuite et cette loi qui punissait les Français d'aider les migrants. Et évidemment, ça a allumé la polémique. Et la polémique, d'ailleurs, que ce soit à ce niveau-là à l'époque, hein, c'est-à-dire 2009, 2010, 2011, et maintenant, les choses n'ont pas vraiment changé.
Eh ben, regardez ce que nous vivons aussi aujourd'hui. Hein.
Exactement. Elle s'interroge sur l'immigration, sur les migrations, sur la migration. Et évidemment, il y a une série d'événements funestes d'ailleurs, qui poussent les Français à se demander quoi faire.
Oui. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que en Italie, cette semaine, après avoir fait campagne contre l'immigration, eh ben, la première ministre de l'Italie a décidé d'accueillir 500 000 nouveaux immigrants parce qu'il y a un manque de main-d'œuvre. Et je pense que le Canada est aussi dans le même bateau, n'est-ce pas? Et donc, on sent qu'il y a un débat. Je pense en Angleterre, on veut les envoyer au Rwanda, hein, si je ne m'abuse.
Alors... Oui, c'est exact.
Alors, un auditeur nous écrit tout d'abord: le personnage de Simon m'a vraiment inspiré puisqu'il passe par des phases d'évolution de personnalité qui nous en donnent espoir en humanité. Je ne me considère pas raciste, mais il m'a changé mes points de vue en compte des réfugiés. C'est intéressant, hein? Welcome, un drame de bonne facture sur la condition des migrants à Calais. C'est aussi l'histoire d'un homme, Vincent Lindon, qui vit mal son divorce et se trouve touché par la situation compliquée. Et l'objectif fou, traverser la Manche à la nage, d'un jeune kurde. Un film à dimension et message humain, à l'histoire tendre et poignante, sans jamais tomber dans le mélo ni prosélytisme. Il faut dire qu'il est magnifiquement porté par ses acteurs, Lindon en tête. Un autre qui nous écrit: Welcome est un film hors du commun. L'histoire est très crédible et les acteurs sont tous excellents. Il faut parfois, dans notre petite vie confortable et nos existences bien agencées, recevoir un choc. Et c'est ce qui est arrivé avec ce film choquant de réalisme. Lioret aborde le problème actuel et extrême du clandestin dans des conditions terribles. Ils sont prêts à risquer leur être dans l'espoir de créer un avenir meilleur. Et enfin, un autre, Simon Lindon est un maître nageur à Calais qui choisit d'apprendre à nager avec un migrant et pour lui permettre de traverser la Manche à la nage. Une belle histoire où Lindon est très touchant. Et donc, comme vous avez dit, Welcome a été couronné plusieurs fois. Rendez-vous donc lundi 18 décembre à 18h. Ça s'annonce. Parlez-moi un petit peu justement, qui sont ces cinéphiles francophiles, francophones qui viennent assister à ces projections à la librairie de référence de Toronto? Moi, je suis très curieux.
Oui, écoutez, d'abord, ce sont des cinéphiles à la fois francophones et allophones, qui aiment beaucoup ciné franco et qui sont presque devenus des amis, en fait. Et j'en suis très fière parce que très souvent, ils m'envoient des petits mots. Quand est-ce qu'on va vous voir à la bibliothèque ou ceci ou cela? Ça me touche énormément. Donc, ce sont des personnes qui sont à la fois attachées à la langue française et à son apprentissage, mais aussi au film français. français ou aux films francophones et québécois et internationaux francophones.
Alors malheureusement, je ne pouvais pas être présent pour la 26e édition du Ciné Franco en novembre. Par contre, je vous ai suivi, on a parlé de vous, on a reçu des réalisateurs, des comédiens. Oui. En deux mots, parce que le temps file, quel bilan faites-vous de cette 26e édition ?
Eh bien, c'est un bilan bien meilleur que la 25e édition.
Ah oui.
Le cinéma a beaucoup plu. Oh. Le programme a beaucoup plu également.
Bravo.
Nous avions une atmosphère presque familiale et intime à cause de la fréquentation très assidue, justement, de personnes qui sont venues voir même des douzaines de films.
Bravo.
Alors, je les remercie du fond du cœur. Comme je vous remercie, Eric, et votre équipe qui nous soutiennent tellement fortement, merci infiniment.
Alors, on parlera avec vous de l'année prochaine, parce que malheureusement, nous allons tourner la page. J'espère que l'année sera bonne et meilleure que 2023. Et je rappelle aux gens que Ciné Franco Jeunesse revient, essentiellement adressé à des écoles, qui se déroulera du 20 février au 7 mars 2024 dans un des cinémas Cinéplex de la ville de Toronto. Mais vous pouvez aller visiter le site web de cinéfranco.com pour avoir les mises à jour, les thématiques pertinentes à la hauteur d'enfants et d'ados. J'aimerais beaucoup vous parler au début de l'année prochaine si tout va bien. Et quels sont vos vœux, vos espoirs, projets 2024 en deux mots?
Alors 2024, bonne santé, beaucoup de bonheur à tout le monde, beaucoup de joie et des expériences toujours stimulantes, pertinentes et intéressantes.
J'en profite pour remercier tous les invités de cette édition spéciale, professeur Thomas Cispire qui nous a présenté son livre, nouveau roman, Les Mascarades de Wisconsin, Zéfred et sa belle soirée réveillon des orphelins, et DJ Devera, tous les techniciens de Hot House Studio, Wiltrude from Germany, we say thank you again pour vos dons généreux. Et tous les donateurs, donatrices. Et merci beaucoup Marceline qui est avec nous, qui termine cette émission en beauté. Je vous souhaite une année heureuse. Je vous laisse avec la bottine souriante dédiée à Diane Chaperon-Laure qui nous écoute en ce moment, et tous nos auditeurs québécois et francophones. Happy Hanukkah, Happy Kwanzaa, et je dis joyeux Noël si vous souhaitez. Si vous fêtez Noël. Allez, je vous dis au revoir, Marcel, et j'espère que le Père Noël viendra chez vous.
Et salut à Diane aussi, merci.
Oh, 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 oh.
La bottine souriante, c'est probablement le seul groupe qui est capable de chanter une chanson de jour en plein mois de juillet quand il fait à peu près 100 degrés. Mesdames et messieurs, chanson de Joe la reine, la même. La mamelle. Chanter que c'est bonbon, prendre un verre de thé avec la cuisinière dans un petit coin loin, pis si c'est bonbon, faites-le en riant, y'a pas de mal là-dedans, dans le temps du jour de l'an.
Que c'est bonbon. Je me suis ennuyé.